Vous avez certainement entendu parler de Zina et de Zainab cette semaine. Ces deux sœurs, l'une âgée de 4 ans, l'autre de 7 ans, ont survécu à la tuerie de Chevaline en Haute-Savoie, où leurs parents ainsi que deux autres personnes ont été assassinées pour des raisons encore inconnues. Et en pensant à ces deux jeunes filles, je me dis que dorénavant, leur vie ne va plus être la même. Leur personnalité, leurs aspirations, leur vision du monde et de l'avenir, tout ça est maintenant conditionné, n'est-ce pas, par le traumatisme extrême qu'elles ont subi il y a tout juste quelques jours. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est la suivante. Quels sont les événements qui vous définissent? Quels sont les événements qui ont conditionné vos aspirations et votre vision du monde et de l'avenir? Alors certes, vous n'avez sans doute pas connu un traumatisme de la même ampleur que Zina et Zainab, mais il y a certainement eu des choses dans votre vie qui ont laissé des traces importantes dans votre personnalité et dans la façon dont vous pensez et dont vous vous comportez jusqu'à aujourd'hui. Un échec peut-être, une trahison ou un décès, ou une maladie, ou une agression que vous auriez subie, ou un accident, ou que sais-je encore. Est-ce que ce sont ces choses qui sont censées conditionner notre vie en tant que croyant? Telle est la question, à mon avis, qui est soulevée par le texte qu'on est sur le point de lire. Alors, depuis le début du livre de l'Exode, et on approche, on va aborder le chapitre 15 maintenant, donc ça fait 14 chapitres. Depuis le début du livre de l'Exode, Moïse nous a raconté l'oppression des Israélites en Égypte. Il nous a raconté la confrontation spectaculaire qui a opposé l'Éternel, le Dieu d'Israël, au Pharaon, le roi d'Égypte. Et tout au long de ce récit, il y a eu une tension croissante, il y a eu de plus en plus de suspense jusqu'au dénouement spectaculaire où on a pu voir l'intervention finale de Dieu contre l'armée égyptienne au moment de la traversée de la mer Rouge, une intervention qui a consisté, rappelez-vous, on l'a dit la semaine dernière, qui a consisté en un jugement inéluctable, parfait et définitif. Et voici qu'au chapitre suivant, chapitre 15, le texte qu'on est sur le point de lire, il va se passer quelque chose d'inédit. Moïse et le peuple se mettent à chanter un cantique. Ce qui se passe dans le texte, c'est exactement comme lorsque vous regardez un film et qu'après 2 heures de suspense grandissant, vous assistez enfin au dénouement spectaculaire de l'histoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe d'habitude? Le réalisateur décide d'envoyer la musique triomphale, qui est destinée à quoi? Sinon, à vous faire comprendre que vous venez d'assister à la scène la plus importante du film. Et normalement, à ce moment-là du film, vous êtes censé être rempli d'émotions. Vous êtes censé être galvanisé, peut-être même qu'à ce moment-là du film, vous avez envie de pleurer, ou bien de vous lever de votre fauteuil et de pousser un cri de triomphe. Yes ! C'est ce qui est en train de se passer dans le texte. On est censé comprendre qu'on vient d'assister à l'événement le plus important du récit. Et là, on est censé être rempli d'émotions et d'enthousiasme. Et dans un sens, j'espère que vous allez comprendre pourquoi ce soir, dans un sens, cet événement qui vient de se produire est l'événement le plus important de tout l'Ancien Testament. C'est l'événement qui est censé conditionner pour les Israélites leur identité, leur culte et leur vision du monde et de l'avenir. Et c'est justement là la leçon qu'on va voir aujourd'hui, à savoir que notre vision du monde et de l'avenir ne doit être fondée sur rien d'autre que sur ce que Dieu a fait pour nous racheter. Notre vision du monde et de l'avenir ne doit être fondée sur rien d'autre que sur ce que Dieu a fait pour nous racheter. Et cette idée, Moïse va nous la faire comprendre en développant dans ce cantique, un cantique qu'on pourrait qualifier d'hymne national du peuple de Dieu, il va développer dans ce cantique 3 points qui sont intimement liés les uns aux autres. Ce sont les 3 points que vous avez dans votre bulletin. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu est et ce que Dieu fera. Alors lisons le texte. Exode chapitre 15, les versets 1 à 21. Juste pour le contexte, je vais lire le dernier verset du chapitre précédent. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors, Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu. Je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon père. Je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier. L'Éternel est son nom. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des gens. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifiée par sa vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Tu déchaînes l'ardeur de ta colère. Elle les dévore comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une masse. Les flots se sont durcis au cœur de la mer. L'ennemi disait, « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Je m'en répéterai, je tirerai l'épée, ma main s'en emparera. » Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans des eaux puissantes. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles? Tu as étendu ta droite et la terre les a engloutis. Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. Les peuples l'ont appris et ils tremblent. Les douleurs saisissent les habitants de la Philistie, les commandants d'Édom s'épouvantent, un frémissement saisit les guerriers de Moab, tous les habitants de Canaan défaillent. La terreur et la peur tomberont sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé, jusqu'à ce qu'il ait passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les implanteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta résidence, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait, « Chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, bénis maintenant la prédication de ta parole. Et aide-nous à recevoir de ta part tout ce que tu veux nous dire, tout ce que tu veux nous enseigner pour que notre vie en soit transformée sous l'effet de ton Saint-Esprit. Et au nom de Jésus. Amen. Alors la première chose que je veux que vous remarquiez dans ce passage, c'est le rappel persistant de ce que Dieu vient de faire. Le rappel persistant de ce que Dieu vient de faire, dans le récit bien sûr. Versets 4-5, il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des gens. Les flots les ont couverts, ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Puis de nouveau, versets 8 à 10, au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une masse, etc., etc. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans des eaux puissantes. Et encore, verset 12, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Et puis comme si tout ça ne suffisait pas, eh bien le verset 19 en remet une couche. Et le verset 19, on n'est pas sûr si ça appartient au chant, au cantique lui-même, ou si c'est une petite parenthèse qui consiste plutôt en de la prose, qui nous rappelle ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, voici ce que le verset 19 nous rappelle. « Car les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. » Et comme si cela ne suffisait pas, on a encore le refrain de ce cantique qui nous est donné au verset 1 et au verset 21. Verset 1 dans la bouche de Moïse et des Israélites, verset 21 dans la bouche de Myriam, la sœur d'Aaron, et donc la sœur de Moïse également. L'Éternel a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Vous voyez le rappel persistant qu'il y a dans tout ce passage de ce que Dieu vient de faire. Ce que Moïse veut que nous comprenions, si on ne l'a pas encore compris, c'est que cette victoire définitive de Dieu sur l'Égypte est un événement déterminant. C'est le clou du spectacle, si j'ose dire. C'est le point culminant de l'histoire du peuple, jusque-là en tout cas. Et de la même façon que c'est cet événement qui provoque et qui alimente ce cantique de la part de Moïse et des Israélites, de la même façon, cet événement doit occuper la mémoire des Israélites et conditionner toute leur façon de penser et d'agir. Alors je suis sûr qu'il y a eu dans votre vie des moments où vous avez été particulièrement ému, de façon positive ou négative d'ailleurs. Il s'est passé quelque chose à un moment dans votre vie et vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser toute la journée, peut-être même d'en rêver pendant votre sommeil. Peut-être que cela d'ailleurs nuit à votre appétit, peut-être que cela nuit à votre concentration. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Cette chose qui s'est passée et qui vous a profondément ému en bien ou en mal. Et si vous êtes comme moi et que vous avez un brin de verve poétique, c'est à ces moments-là que vous vous sentez le plus inspiré pour éventuellement composer une chanson ou écrire un poème ou peindre un tableau, que sais-je encore. Nos émotions ont une drôle de capacité, n'est-ce pas, à vouloir s'exprimer à travers l'art. Et de la même façon, ce texte ici, chapitre 15, nous invite à mesurer l'émotion irrépressible qui a été suscitée par la traversée de la mer Rouge et qui provoque et alimente et qui s'exprime dans ce cantique. Ce que Moïse veut que nous comprenions, c'est que cet événement de la libération d'Égypte, de la traversée de la mer des joncs ou de la mer Rouge, ou de la mer des roseaux encore. Il veut que nous comprenions que c'est un événement digne d'émouvoir à ce point les Israélites. C'est un événement digne d'un cantique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un événement digne d'occuper constamment leur pensée à ces Israélites, plus que tout autre événement de leur histoire. Moïse veut donc tout simplement que les Israélites se remémorent constamment et perpétuellement ce que Dieu a fait pour les racheter. Alors si vous êtes croyant, cet après-midi, je vous pose deux questions. Deux questions. La première, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous racheter? La deuxième, est-ce que vous y pensez souvent? Si vous êtes croyant, vous savez que pour vous racheter, Dieu s'est fait homme en Jésus. Vous savez qu'il a marché sur la terre en la personne de Jésus. Vous savez qu'il a porté vos péchés sur la croix. Et qu'il est mort sur cette croix, et qu'il est ressuscité le troisième jour en gage de son triomphe définitif sur le mal et sur la mort. Vous le savez cela. Êtes-vous ému par cet événement? Au point qu'il soit devenu l'objet principal de vos pensées. Est-ce que vous prenez tout simplement le temps de vous remémorer ce que Dieu a fait pour vous racheter? Alors, dans notre Église, on est persuadé que l'Évangile, ce n'est pas un message à entendre qu'une seule fois, que l'Évangile, ce n'est pas un livre à lire un jour et à ranger ensuite dans sa bibliothèque pour qu'il y prenne la poussière. Nous sommes persuadés que l'Évangile, pour me référer à une récente prédication de Jonathan, l'Évangile, c'est une promesse et une personne. C'est une promesse et une personne qui doivent occuper nos pensées et conditionner tout ce que nous faisons. Tout le temps. C'est pour cette raison que dans notre église, en tout cas, si vous venez régulièrement, ou si vous comptez venir régulièrement, vous allez entendre parler de la venue, de la mort et de la résurrection de Jésus. Tous les dimanches, vous allez en entendre parler dans nos prédications, dans nos prières, dans nos chants. Vous allez en entendre parler les jeudis à l'étude biblique. Vous allez en entendre parler les samedis aux réunions du groupe de jeunes adultes. Vous allez en entendre parler les vendredis aux soirées à vous de voir. Et j'espère que nous ne nous lasserons jamais d'en parler ni d'en entendre parler. Et pourquoi est-ce que c'est si important de se remémorer ce que Dieu a fait pour nous racheter? Pourquoi? Eh bien parce que ce qu'a fait Dieu révèle qui est Dieu. Ce qu'a fait Dieu révèle qui est Dieu. Et dans le texte, en effet, la deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est le va-et-vient qu'il y a dans le contenu de ce cantique, le va-et-vient entre la célébration de ce que Dieu a fait et la célébration de qui Dieu est. Ça passe de l'un à l'autre. Et ça retourne à l'un, et ça retourne à l'autre. Comme si le fait de méditer sur ce que Dieu a fait, en intervenant pour anéantir l'armée égyptienne et pour libérer son peuple de l'oppression égyptienne, comme si le fait de méditer sur ces choses poussait irrésistiblement Moïse à méditer, en même temps sur le caractère et les attributs de Dieu. Comme si le fait de méditer sur l'un le poussait irrésistiblement à méditer sur l'autre. Et voici tout ce que Moïse dit et se dit au sujet de Dieu à cause de ce que Dieu vient de faire. Dans ce texte, verset 2, l'Éternel est ma force, il est l'objet de mes cantiques, il est mon salut, il est mon Dieu, il est le Dieu de mon Père. Verset 3, il est un guerrier, il est l'Éternel, il est le Dieu de l'Alliance qui tient ses promesses. Et verset 6, il est puissant et magnifique. Verset 7, sa majesté est grande, si grande que personne ne peut lui résister. Il est le juge souverain, sa colère est sainte. Verset 11, il n'y a personne comme lui, personne qui soit magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, personne capable d'opérer de tels miracles comme lui. Moïse est en train de réfléchir à ce que Dieu a fait, et par conséquent, il réfléchit à qui Dieu est, comment il est. Imaginez qu'un jour vous entendiez le nom de Klaus Barbie et vous ne savez pas qui c'est. Il a le même prénom que votre petit cousin qui a 3 ans et demi et qui est tellement mignon. Et son nom de famille vous fait penser aux poupées Barbie, à une maison toute rose et à des histoires d'amour. Klaus Barbie, quel nom mignon finalement. C'est le prénom de mon petit cousin de 3 ans et demi et c'est le nom d'une poupée. Donc Klaus Barbie, a priori, vous semble être quelqu'un de bien. Mais pour savoir comment il est vraiment, vous décidez de consulter sa biographie et de découvrir ce qu'il a fait, ce bonhomme, dans sa vie. Et bien entendu, vous ne tardez pas à découvrir que Klaus Barbie était en fait le chef de la Gestapo à Lyon, sous l'occupation allemande. Vous ne tardez pas à découvrir que ce Klaus Barbie si mignon, il a fait déporter, torturer et exécuter de nombreuses personnes, par centaines, y compris des femmes et des enfants, ce qui lui a valu le surnom, de boucher de lion. Alors, comment était Klaus Barbie? Vous pouvez vous en faire une assez bonne idée en regardant ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Comment est Dieu? Vous pouvez aussi vous en faire une assez bonne idée en regardant ce que Dieu a fait. Il est possible que vous vous fassiez une idée de Dieu aujourd'hui qui n'est pas conforme à qui Dieu est vraiment. C'est possible ça. Peut-être que les notions de Dieu, d'éternel et de Père, par exemple, sont associées dans votre esprit à des choses ou des événements qui en réalité n'ont pas grand-chose, voire rien du tout à voir avec le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Votre Dieu à vous, cet après-midi, est peut-être pas très aimable, il est peut-être pas très puissant, ou peut-être qu'il n'est pas très juste, ou pas très saint, peut-être qu'il n'est pas très fiable, votre Dieu, cet après-midi. C'est pourquoi il est indispensable que nous nous remémorions constamment et perpétuellement ce que Dieu a en réalité fait pour nous racheter. Alors regardons ce qu'il a fait pour les croyants, pour sauver les croyants. Il a manifesté son amour en descendant du ciel et en venant nous secourir en personne. Il a manifesté sa miséricorde en ne nous rétribuant pas selon nos péchés. Il a manifesté sa grâce en portant à notre place nos péchés sur la croix. Il a manifesté sa justice en déversant sa colère sur Jésus qui a été fait péché pour nous sur la croix, comme le dit l'Écriture. Il a manifesté sa puissance et sa capacité à sauver parfaitement en ressuscitant Jésus le troisième jour et en le faisant asseoir à sa droite dans le ciel, au-dessus de toute sa création. Vous voyez, ce que Dieu a fait pour nous racheter doit occuper nos pensées, parce que c'est ça qui conditionne l'idée que nous avons de Dieu, et par conséquent, c'est ça qui conditionne notre louange, notre adoration, et tout simplement la façon dont nous vivons sous son regard. C'est exactement comme le dit le refrain du cantique de Moïse, ce refrain qu'on trouve au début et à la fin, et qui sans doute était répété, on ne sait pas à quel moment, mais toutes les strophes étaient répétées par le peuple. « Je chanterai à l'Éternel », ça c'est l'attitude du croyant, « je chanterai à l'Éternel car il a montré sa souveraineté », c'est-à-dire il a révélé qu'il était souverainement élevé, qu'il était exalté au-dessus de tout. Il l'a montré. Et entre parenthèses, enfin sous-entendu, comment a-t-il montré sa souveraineté? La réponse dans la fin du refrain, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Alors on a vu jusqu'ici que ce qu'a fait Dieu révèle qui est Dieu. Et que Moïse passe de l'un à l'autre au fil de ce cantique pour montrer aux Israélites que l'événement de l'Exode, hein, c'est-à-dire la libération d'Égypte et la traversée de la mer des joncs, ou la mer Rouge, est l'événement le plus important et le plus déterminant de leur histoire, et que c'est cet événement qui doit conditionner tout ce qu'ils sont et ce qu'ils vont faire dorénavant en tant que peuple. Et justement, dans la dernière partie du cantique, cette fois, Moïse introduit un troisième élément concernant l'avenir. C'est la troisième et dernière chose que je vais vous faire remarquer dans ce passage. Et c'est la suivante, c'est la conviction inébranlable qui apparaît à la fin de ce cantique en ce qui concerne l'accomplissement futur des promesses de Dieu. La conviction inébranlable qui apparaît à la fin de ce cantique en ce qui concerne l'accomplissement futur des promesses de Dieu. Au verset 13, Moïse analyse ce qui s'est passé. Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. Dieu a racheté son peuple et il le dirige par sa puissance. Il le constate. Dieu était manifestement présent dans la nuée pendant le jour et dans la colonne de feu pendant la nuit. Il est là avec son peuple. Il a ouvert la mer. Il l'a fait passer. D'accord ? Moïse constate ce que Dieu a fait, ce qui s'est passé. Et ensuite, il constate ce qui en a résulté. Versets 14 et 15, il nous décrit la terreur des ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu étaient comme des pierres qui coulaient au fond de la mer, et ils seront comme des pierres qui demeurent muettes devant la puissance de Dieu qui s'est déployée. Les ennemis de Dieu connaissent la puissance de Dieu dorénavant. Ils sont au courant de ce que Dieu a fait contre les Égyptiens et de ce qu'ils risquent de faire contre les Édomites, les Moabites, les Philistins et les Cananéens. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser. Et ensuite, Moïse en tire une leçon, versets 16 à 18. Et la leçon, c'est la suivante, c'est que la victoire finale est assurée. Le peuple pourra prendre possession de la terre promise. Dieu habitera bel et bien au milieu d'eux, conformément à toutes ses promesses. Vous avez vu la conviction inébranlable de Moïse, qui découle de ce qu'il a constaté, de ce qu'il a vu Dieu faire pour le peuple. Sa conviction en ce qui concerne l'avenir, la conviction de Moïse en ce qui concerne l'avenir, est fondée sur le passé. Sa conviction en ce qui concerne l'avenir est fondée sur le passé. Ce que Dieu a fait pour racheter les Israélites annonce et garantit ce qu'il fera pour parfaire leur salut, pour compléter, pour le rendre tout à fait complet et parfait. C'est un peu comme si vous vouliez vendre un bien très précieux sur le site leboncoin.fr. D'accord ? C'est un objet très précieux. Et vous avez un acheteur, sauf qu'il habite de l'autre côté du monde. Il vous contacte et vous dit qu'il veut absolument acheter ce bien que vous vendez sur le site. Mais il a besoin de 3 semaines pour venir chez vous pour récupérer l'objet en question. Bon. Pour garantir sa venue, 3 semaines plus tard, pour garantir son achat, il vous verse ce qu'on appelle des arrhes ou un acompte, d'accord ? Il vous verse de l'argent d'avance. Et s'il ne vient pas 3 semaines plus tard, vous avez, vous, le droit de garder cet argent tout en vendant le bien à quelqu'un d'autre et de renoncer à cet acheteur-là. D'accord ? Disons que le prix que vous demandez, c'est 10 000 euros. C'est un objet précieux, hein ? 10 000 euros. Et il vous verse comme art, disons, 6 000 euros. C'est une garantie assez sérieuse, non ? Du fait que ce bonhomme va quand même faire tous ses efforts pour venir récupérer cet objet et vous payer le reste, n'est-ce pas ? De façon un peu similaire, Dieu a prouvé qu'il était déterminé à sauver son peuple. Rappelez-vous, Dieu a mis des moyens colossaux pour faire sortir les Israélites d'Égypte et pour les délivrer une fois pour toutes de leurs oppresseurs. Dieu a mobilisé tous les moyens qu'il fallait mobiliser. Rappelez-vous des plaies d'Égypte. Rappelez-vous de la mort des premiers-nés. Et rappelez-vous de ce qui vient juste de se passer, à savoir le peuple qui traverse la mer à pied sec et la dite mer qui se referme sur les Égyptiens. Comment Dieu ne veillerait-il pas maintenant sur eux pendant leur périple dans le désert ? Comment Dieu ne leur permettrait-il pas maintenant de prendre possession de la terre promise vers laquelle ils se dirigent ? Vous voyez, Dieu a libéré le peuple d'Égypte en quelque sorte comme un acompte ou comme des arrhes du salut à venir. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais non seulement Dieu a libéré les Israélites d'Égypte au prix du sang des premiers-nés égyptiens, mais encore Dieu a libéré tous les croyants de leurs péchés au prix du sang de son premier-né, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a ressuscité Jésus comme prémisse de la résurrection à venir, comme acompte, si vous voulez, de la résurrection à venir. Il a même, dans la Bible, Dieu a même juré par sa propre sainteté que la victoire de Jésus serait suprême et que son règne au profit des croyants n'aurait pas de fin. Vous avez vu ce que Dieu a mis comme acompte pour le salut des croyants ? Il a mis sa parole, il a mis sa sainteté, il a mis son propre Fils unique comme acompte pour notre salut. Vous pensez que Dieu va faire marche arrière maintenant ? Vous pensez que quelque chose peut faire renoncer Dieu à sauver les croyants ? Alors j'espère que vous voyez que la leçon générale de ce texte, comme on le disait en introduction, c'était que notre vision du monde et de l'avenir ne devait être fondée sur rien d'autre que sur ce que Dieu a fait pour nous racheter. Alors certainement, il y a eu dans votre vie des événements qui vous ont marqué, des événements qui ont peut-être aujourd'hui encore tendance à définir qui vous êtes et conditionner encore aujourd'hui la façon dont vous considérez votre existence et votre avenir. De façon similaire, il y a toujours dans l'histoire d'un pays, des événements qui conditionnent aussi la culture et les valeurs de ce pays et qui font que le pays en question est ce qu'il est aujourd'hui. Alors, je prends l'exemple de la France. On peut penser, bien sûr, à la Révolution française, 1789, et les années qui ont suivi. La Révolution française, dont l'influence se voit notamment dans notre hymne national, la Marseillaise. Eh bien, pour Moïse, c'est ce que Dieu a fait pour nous racheter, qui constitue l'événement fondateur, crucial, décisif, déterminant pour les croyants et pour le peuple des croyants, c'est-à-dire l'Église. Et donc le cantique de Moïse, ce cantique apparaît ici dans le récit pour justement nous enthousiasmer, peut-être nous galvaniser un peu par rapport à ce que Dieu a fait, pour nous influencer, pour influencer notre pensée et notre comportement, exactement comme le ferait peut-être un hymne national. et en chantant cette espèce d'hymne national, les croyants et l'Église sont invités à se remémorer perpétuellement ce que Dieu a fait pour racheter son peuple. C'était notre premier point. Ils sont invités à célébrer qui Dieu est, c'était notre deuxième point, et à se réjouir par conséquent de l'accomplissement certain de toutes ses promesses. Voilà ce qui doit caractériser à la fois notre culte en tant qu'Église chrétienne et notre piété personnelle en tant qu'individu chrétien. Tout se résume finalement au refrain du cantique. Vous vous souvenez, verset 1, verset 21, « Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Il a dépouillé les puissances et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. C'est notre hymne national en tant qu'Église. Vous savez, il paraît que l'hymne national le plus ancien, c'est l'hymne néerlandais, qui remonte au XVIe siècle. Très ancien. C'est le plus ancien du monde. L'hymne national. Ben nous, en tant qu'Église, on a un hymne plus ancien. Il remonte au XIVe siècle. Avant Jésus-Christ. C'est pas mal, hein? C'est notre hymne national, en quelque sorte, bien sûr, parce que c'est ça qui doit fonder, conditionner et caractériser qui nous sommes et ce que nous faisons. Et saviez-vous que le cantique de Moïse, nous allons le chanter au ciel? C'est ce que dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 15, versets 3 et 4. Semble-t-il, en tout cas, je sais que tout ça est ouvert à interprétations diverses, hein, surtout quand on cite le livre de l'Apocalypse, mais il est question des croyants dans ce texte qui chantent, je cite, le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Deux points. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice a été manifestée. Amen.